La première, 11h30, 13h, entrée sans frapper.
Il est 11h30, bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Entré sans frapper, jusque 13h sur la première avec Marie-Agnès Baupin, Catherine Robert et Vianz. Ce midi, trois invités. Dans la seconde partie de cette émission, nous serons en duplex avec Sarah Biasini, comédienne et auteure, mais aussi fille de Romy Schneider. Elle nous parlera d'un très beau livre qu'elle vient de publier chez Stock, intitulé La beauté du ciel. À nous, c'est une belle dédicace, c'est aussi le titre de l'album de notre compatriote Noé Préchoff, qui était nommé récemment parmi les découvertes des récentes victoires de la musique. Il sera des nôtres entre midi et 13h. Son album sort bientôt, le 2 avril. Et puis, direction le Théâtre Royal de la Monnaie. Dans quelques secondes, nous recevons un homme de l'ombre. Jean-Pierre Stevens a été régisseur pendant plus de 40 ans dans cette noble institution où il a connu 4 directeurs et travaillé sur plus de 200 productions. Il rassemble ses souvenirs dans un livre intitulé « En scène, s'il vous plaît » aux éditions Safran. Et puis, dans cette émission, ce midi, il y aura Selectorama, en fin d'émission avec Jean-Marc Panis, mais aussi Adeline Dieudonné, Jack London, Nicolas Herman et le Golden Gate Bridge. Bienvenue dans Entrée sans frapper.
La première.
Entrée sans frapper, Éric Russon.
Nous accueillons Jean-Pierre Stevens dans notre émission ce midi. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Alors Jean-Pierre, vous êtes ce qu'on appelle un homme de l'ombre et vous sortez aujourd'hui de cette ombre pour nous raconter votre histoire et un peu votre vie aussi dans un livre intitulé « En scène, s'il vous plaît ». Votre histoire, pour la résumer un petit peu, et comment résumer une telle histoire, c'est quand même plus de 40 ans passés dans les coulisses du Théâtre Royal de la Monnaie de Bruxelles. Comme régisseur, vous êtes aujourd'hui retraité. Dans ce livre, vous racontez bien plus que vos souvenirs. Vous racontez avec beaucoup de détails d'ailleurs et d'anecdotes. Un bout d'histoire de cette institution. Vous avez connu 4 directeurs et vous avez travaillé sur plus de 200 productions. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Et pas seulement à Bruxelles d'ailleurs. Alors on pourrait croire que cet ouvrage s'adresse uniquement aux amateurs d'opéra. Et en fait, il n'en est rien. Parce que j'ai l'impression que tout le monde pourrait lire ce bouquin et s'intéresser à cette histoire. Même ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans une maison d'opéra.
Mais c'est ce que j'espère un petit peu.
Oui.
Les 250, c'est vraiment ce que j'ai choisi dans mes souvenirs. Parce que j'ai participé à plus que 250 productions, je dirais pratiquement le double. Mais au moment où j'ai décidé d'écrire ces souvenirs, d'abord pour moi-même et pour ma famille, donc... Sans idée de le publier, j'ai éliminé les productions sur lesquelles j'avais rien à dire.
Ouais, ouais. D'ailleurs, il faut dire qu'à la fin du livre, toutes ces productions sont évidemment citées.
Oui.
Il y a toute une liste avec les années. Enfin, plutôt pour les connaisseurs, pour ceux qui veulent retrouver des souvenirs, évidemment.
Mais bon, quelquefois, il n'y a que le titre qui est évoqué dans le corps du texte.
Alors, vous en avez croisé des gens, vous avez croisé des artistes, des metteurs en scène, des techniciens.
Oui.
C'est marrant parce que là, vous êtes à la retraite depuis quelques années et grâce à ce bouquin, ils reviennent vers vous, vous les retrouvez quelque part. C'est
Mais
marrant,
oui.
non ?
Oui, c'est vrai, C'est vrai, la publication du livre m'a donné l'occasion de renouer certains contacts.
C'est formidable. C'est dans la collection Témoins d'Histoire, dans une petite maison d'édition qui fait un travail formidable, les éditions Safran. Alors Jean-Pierre Stevens, je l'ai dit, vous avez été pendant plus de 40 ans régisseur au Théâtre Royal de la Monnaie. Ce ne sont pas des gens qui viennent saluer à la fin du spectacle, généralement.
Non.
Ce sont les chefs d'orchestre, les metteurs en scène et les artistes qui saluent, pas le régisseur. Et c'est dommage, parce que j'ai l'impression que sans le régisseur, le spectacle ne serait pas le même. Ça consiste en quoi, être régisseur ?
En fait, c'est un métier de liaison, de lien entre deux grands domaines de l'opéra, donc deux grands domaines qui interviennent pendant le spectacle. Tout ce qui est artistique et ce qui est technique.
Ouais, ouais.
Donc, dès le début des répétitions, le régisseur, déjà, fait le lien en prenant du côté artistique les renseignements qu'il va devoir transmettre au côté technique.
Ouais, ouais. Alors, ce lien, évidemment, est essentiel, surtout dans des spectacles où il y a beaucoup de changements de décor, des éclairages, des entrées, des sorties d'artistes. D'ailleurs, entrées en scène, s'il vous plaît, c'est la phrase d'entrée du livre. Ça veut dire que le régisseur, il participe à toutes les étapes de la fabrication du spectacle ?
Oui, depuis la présentation du projet par le metteur en scène au théâtre. Donc, on prend déjà connaissance avec le principe de la production et voir un petit peu comment ça va s'orienter.
Ouais.
Et puis, on suit toutes les étapes, toutes les répétitions, et alors les spectacles, évidemment, où là, on donne vraiment des ordres très précis.
À la seconde près, à la note près.
À la seconde près, au quart de temps près,
ouais,
si c'est nécessaire, pour des changements d'éclairage, de décor, d'entrée, enfin tout ce qui est mouvement dans un opéra.
Et Dieu sait si c'est précis évidemment un opéra, puisque, on le rappelle quand même, c'est un des spectacles les plus compliqués à monter, parce qu'il y a les chœurs, il y a l'orchestre, il y a les comédiens, il y a la figuration. On va parler aussi de la figuration,
et puis il y a toute
la technique, de plus en plus sophistiquée aujourd'hui.
Oui, oui.
Le régisseur, c'est vraiment le point central quelque part.
Mais oui, d'une certaine façon, oui.
Ouais. Beaucoup de responsabilités, quelles sont les qualités qu'il faut ? Moi, je pense que quelqu'un de nerveux ou de colérique ne pourrait pas être régisseur.
Non, je crois qu'il faut être calme, qu'il faut pas s'exciter, il faut pouvoir penser à des solutions, parce que un problème peut survenir à l'improviste.
En direct, comme
on
dit.
En direct.
Ouais.
Et il faut pouvoir réagir.
C'est quoi le genre de problème ? Parce que, alors, tout est expliqué dans le bouquin, on ne va pas raconter évidemment tout ce qu'il y a dans le livre, il y a énormément de souvenirs et d'anecdotes, mais le entrée sur scène, s'il vous plaît, parfois il n'est pas entendu par certains artistes qui arrivent en retard ou sur le fil.
Oui, ça c'est devenu quand même assez rare.
Oui. Hein,
mais quand même,
mais vous l'avez connu,
mais,
ça.
Mais je l'ai connu quand même, oui. Un exemple que je cite dans le livre, c'est lors d'une pré-générale d'un opéra, c'était Agrippina, on a eu une panne d'interphonie.
Mm-hmm.
Donc,
c'est le système technique qui permet de parler à tout le monde.
Oui,
quoi.
C'est ça, j'avais un casque et un micro, et ça fonctionnait plus.
Mm-hmm.
Donc, j'ai voulu, comme c'était une répétition, que ce soit aussi une répétition pour moi, et ne pas arrêter la répétition.
Mm-hmm.
Donc, continuer comme si on était en spectacle. Donc, j'ai pris le téléphone, j'ai donné mes tops de lumière par téléphone.
Ouais.
Les machinistes, je les voyais sur scène, ils étaient en dessous d'un grand élément, un escalier, et je pouvais leur faire des signes, et même faire entendre ma voix,
le plus
discrètement possible.
Oui, il faut le rappeler que c'est une pré-générale, donc c'était pas...
Oui, oui. Donc, cette panne a duré certainement 20 minutes, et malgré qu'il y ait des effets de lumière, des effets de machinerie, on n'a pas arrêté.
Mais c'est formidable, donc il faut aussi trouver des solutions.
Donc, pour moi, c'était une répétition qui pouvait me préparer à une panne qui arrive en spectacle.
Ouais.
Qui, heureusement, que je n'ai pas connu.
Oui, on touche du bois. Qu'est-ce qu'il faut, en fait ? Alors, c'est vrai quand on a, par exemple, dans le milieu du cinéma, les scripts, elles ont le scénario comme document de base. Vous avez quoi comme document de base pour suivre le déroulement du spectacle ? C'est la partition ?
C'est la partition. C'est la partition musicale dans laquelle on ajoute beaucoup de notes.
Ouais. C'est votre scénario, quoi.
C'est le scénario, oui.
Ouais, ouais.
Donc,
ça veut dire qu'il faut, au départ, connaître la musique pour être régisseur.
Il faut pouvoir la suivre.
Et la lire.
On ne doit pas nécessairement chanter une partition. Enfin, on ne doit pas déchiffrer. Simplement, on doit savoir toujours exactement où on se trouve, avec toujours une petite anticipation.
Ouais. Comme je l'ai dit, Jean-Pierre Stevens, vous avez connu, et vous le racontez dans ce livre, quatre directions différentes aujourd'hui, donc c'est Peter de Caluet, que vous avez moins connu, celui des quatre, mais vous avez connu Maurice Haussmann, vous avez connu également
Gérard Mortier,
pour lequel vous avez vraiment beaucoup de tendresse, j'ai envie de dire, dans le livre.
Oui, et d'admiration.
Voilà, et puis il y a eu
Bernard Faucroul.
Comment ça a évolué, parce que en 40 et des années de métier, je suppose que vous avez vu à la fois le métier évoluer, j'irais artistiquement, c'est-à-dire, il y a des évolutions artistiques, on ne fait plus de l'opéra aujourd'hui comme on le faisait dans les années 70 ou même 80, il y a aussi des évolutions techniques. Comment ça a évolué ?
Eh bien, on a suivi les deux évolutions. Hein. Donc, la grande évolution artistique est arrivée avec la direction de Mortier.
Ouais.
Hein. Donc, avant, à l'époque de Haussmann, on pouvait avoir de très bons spectacles également, mais ce n'était pas toujours le cas.
Mmh. Et... C'était quoi ? C'était plus, entre guillemets, et ce n'est pas péjoratif, mais c'était plus classique avec Haussmann.
Oui, peut-être.
Et
oui.
On s'est tourné plus vers le contemporain avec Mortier ?
Voilà, c'est ça. Oui. Avec Mortier, on a commencé à faire du théâtre.
Oui. C'est une grande évolution dans l'opéra.
Ah oui, oui. Ouais. De ce fait-là, le temps de répétition est passé de 3 à 6 semaines.
Mm-hmm.
Donc, c'est quand même important.
Oui, oui. Et ça veut dire aussi que les interprètes devaient à la fois être de bons chanteurs, mais aussi de bons comédiens.
Exactement.
Ce qui a été une révolution dans le métier, quand même.
Oui, oui.
Ouais.
Et voilà, donc, il y a eu aussi l'évolution technique suite à la rénovation de 1985. Mm-hmm. Le plateau s'est un peu plus automatisé.
Oui, oui. Ouais. Puis je suppose aussi qu'avec l'arrivée de la vidéo, etc.,
voilà,
tout cela
ça
a changé.
Oui. Et puis il y a eu l'informatique qui s'est ajoutée. Donc les manœuvres n'étaient plus commandées à la main par des machinistes, mais on poussait sur un bouton, ce qu'on continue à faire maintenant. Oui,
oui, oui.
La manœuvre est préparée et au moment du top, on pousse sur
Il faut
bouton.
Toujours être à la seconde près,
oui, oui.
Évidemment. Il y a une autre de vos casquettes, si je puis dire, au cours du temps, évidemment, hein, sur 40 ans, vous en avez fait des choses, mais il vous est aussi arrivé d'être responsable de la figuration.
Oui.
Alors là, il y a quand même pas mal d'histoires à raconter, parce que ça veut dire que, Jean-Pierre Stevens, vous étiez désigné pour trouver des figurants, et parfois les demandes étaient un peu spécifiques, et puis pour vous occuper de ces figurants.
Oui.
C'est arrivé comment dans votre parcours ?
Eh bien, tout simplement, j'avais un collègue qui avait cette charge de recruter les figurants, et à un certain moment, il a décidé de prendre une pause carrière, et finalement, il n'est plus revenu à la régie, et Bernard Faucroul m'a demandé de reprendre le flambeau.
Ouais, ouais.
Ce que j'ai fait, mais en changeant les choses à ma façon, c'est-à-dire à ce moment-là, j'ai voulu que tout, prendre vraiment tout en main, depuis le recrutement, la partie administrative, les contrats, les budgets, et vraiment tout.
Et leur manière d'être aussi rémunérée, parce que c'était...
Oui, et veiller à ce qu'il y ait une évolution dans leur rémunération.
Alors, il y a certaines demandes qui sont quand même un petit peu spécifiques. Moi, je me souviens, dans votre livre, Jean-Pierre Stevens, vous vous souvenez d'un metteur en scène qui vous a un jour demandé de trouver 8 femmes enceintes.
Oui.
C'est quand même bizarre qu'on me demande. Et comment on réagit à une telle demande ? Parce que c'est quand même parfois délicat.
Oui, oui, oui. Sur le moment, on se dit, oh là là, qu'est-ce qui m'attend ? C'était Yann Fabre qui a demandé ça.
Oui, oui.
Hein? Et puis, quand j'ai connu la demande, on était encore loin de la première. Les femmes qui seraient dans le spectacle, enceintes, ne l'étaient pas encore.
Oui, où il fallait qu'elles le soient donc, sur scène un certain nombre de mois, je suppose.
Voilà, c'est ça. Ouais. Il avait demandé environ 5 mois, qu'elles soient enceintes de 5 mois pour que leur grossesse se voie, parce qu'en plus, elles devaient être nues.
Uh-huh.
Et il était prévu de faire des échographies en direct.
D'accord. C'est du Yann Fabre, quoi.
Oui. Mais bon, tout a très bien marché. Vraiment, je garde vraiment un très bon souvenir de cette recherche de figurante enceinte.
Oui, il y en a eu d'autres, évidemment. Mais moi, ce qui me frappe, Jean-Pierre Stevens, en lisant ce livre, c'est la précision de vos souvenirs. Alors, je me dis, bon, alors, vous avez sûrement une très bonne mémoire, mais je suppose qu'au fil du temps, vous avez aussi pris des notes qui vous ont aidé aujourd'hui à rédiger ce texte, parce qu'il y a des couleurs de costumes, il y a des couleurs d'éclairage que vous ressortez comme ça, parfois 30 ans après, c'est assez remarquable. Vous avez vraiment déjà, je dirais, mis sur le papier votre carrière au moment où elle se déroulait ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Les seules notes que j'ai prises, et c'est indiqué dans la préface du livre, je les ai prises pendant 3 mois environ, au moment de changement de direction Haussmann-Mortier.
Mm-hmm.
Parce que je trouvais que ça se passait pas très bien et j'avais envie de noter ça, de garder ça un peu comme témoignage. Et je me suis servi de ces notes-là.
Ouais.
Mais à part ça, j'avais pas de notes. Et quand, en fait,
vous avez une mémoire incroyable.
Mais je dirais que c'est presque normal, parce qu'on vit 2 mois et demi avec une équipe. Ce n'est pas comme quand on va au spectacle, on a vu un spectacle, on ne retient pas qui a chanté.
Ouais, ou la couleur de son costume.
Oui. Ouais. Tandis que quand on a vécu 2 mois et demi avec une équipe de chanteurs, on crée des liens, on se souvient déjà de leur nom.
Ouais, ouais.
Et alors aussi, j'ai toujours bien aimé raconter des anecdotes à mes collègues, à la famille, tout ça. Et finalement, ces anecdotes se sont gravées.
Ouais, ouais. Une dernière question, avant d'écouter un peu de musique, et on va expliquer laquelle. Il y a beaucoup de photos aussi dans ce livre, édité aux éditions Safran, Jean-Pierre Stevens. Beaucoup de photos dont, la plupart, c'est vous qui les avez prises.
Oui, parce qu'à un certain moment...
C'était aussi une de vos fonctions.
Oui, pendant la direction de Haussmann,
ouais.
Le photographe attitré de la Monnaie a pris sa retraite. Et Monsieur Haussmann m'a demandé, pas de reprendre son boulot parce qu'il faisait des photos depuis la salle au général, donc je pouvais vraiment pas être dans les coulisses et dans la salle en même temps. Et puis, je n'avais pas de formation, mais il m'a demandé de faire les photos de documentation technique,
ouais.
Les décors, les accessoires, et puis... le service de presse a trouvé que c'était intéressant de me demander de reproduire des photos
pour le programme
dans,
ouais,
la presse,
ouais,
ouais. La dramaturgie aussi, et finalement j'en ai fait de plus en plus.
Ben voilà, et tout cela, enfin en grande partie, se retrouve dans ce livre que l'on vous conseille. Jean-Pierre Stevens, En scène, s'il vous plaît. On va se quitter, Jean-Pierre, avec un choix,
oui.
Que vous avez voulu entendre. Il s'agit du final d'un opéra qui s'appelle Le couronnement de Poppée de Monteverdi. C'est le duo entre Poppée et Néron pour Tim Miro. Et c'est un enregistrement qui date de 1990, sous la direction de quelqu'un que vous avez croisé. Lors de votre carrière, c'est René Jacobs. Voilà, avec le concerto vocal, les interprètes sont Guillemette Lorenz et Daniel Borst. C'est le morceau que vous avez choisi pour qu'on se quitte. Mais je le rappelle, c'est aux éditions Safran, dans la collection Témoins d'Histoire, qu'on peut se procurer ce livre. En scène, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Jean-Pierre Stevens.
Avec plaisir, et merci de m'avoir invité.
Avec plaisir. Qu'est-ce que c'est beau pour ti, Miro. C'était le duo final du couronnement de Pepe de Monteverdi dans une version de 1990 dirigée par René Jacobs avec le concerto vocal. Une page de pub et on se retrouve pour la suite.
La première, entrée sans frapper. Peugeot présente, le salon est prolongé juste pour vous.
Imaginez des modèles juste pour vous, des conseillers en showroom ou en ligne juste pour vous. Car le salon de Tom qui veut tout savoir sur les utilitaires et les électriques n'est pas celui de Jeanne qui sait ce qu'elle veut. Un Mobility Pack, jusqu'à 3000 euros d'avantage en plus des conditions salon sur toute la gamme.
Le salon Peugeot, c'est prolongé juste pour vous. Découvrez le salon Peugeot virtuel sur Peugeot.be ou rendez-vous dans votre point de vente pour profiter encore de nos conditions salon. Offre soumise à condition.
Deleuze présente les mathématiques modernes. Car chez Deleuze, 1 plus 1 égale 2. Et puis, 1, je développe. Prenez un produit en promo, ajoutez un autre produit identique, ça fait 2 produits, on est d'accord. Mais une fois à la caisse, vous n'en payez qu'un. Parce que cette semaine, plein de produits sont en 1 plus 1 gratuit. C'est QFD. Deleuze, du côté de la vraie vie. Conditions en magasin.
Chérie, si on abat ce mur porteur, on gagne de la place pour la salle de bain, non ?
Sarah, c'est un mur porteur.
Oui, un mur porteur.
Allez, Sarah, demande plutôt conseil à un véritable expert lors de Batibo Virtuel. Surf sur batibo.com du 27 février au 7 mars avec Soirmag.
La première.
11h30, 13h.
Entrée sans frapper.
Et à 11h51, nous allons retrouver Nicolas Herman, pas Arnaud Herman. Arnaud Herman, il fait l'autre métier que Nicolas Herman. Nicolas Herman, donc, en septembre dernier, nous présentait un objet pop assez encombrant. On l'écoute.
Alors aujourd'hui, donc, je vous parle d'un objet qui est énorme, qui est grandiose et qui est pop, vu sa petite couleur orangée. Je vais le dire en français, le pont du Golden Gate,
c'est mieux.
Qui surplombe la ville de San Francisco. Alors il faut savoir qu'il fait partie du club très fermé des 7 merveilles du monde moderne. Vous saviez ça ?
Non.
Vous ne les connaissez pas ? Je vais vous les dire. Alors, parce que c'est une liste qui a été créée par une organisation d'ingénieurs civils américains, et ça regroupe les structures modernes les plus impressionnantes bâties durant les 100 dernières années.
D'accord.
Alors les 6 autres, pour information, il y a le tunnel sous la Manche, le canal de Panama, l'Empire State Building, le plan Delta aux Pays-Bas, c'est un pont, le barrage d'Itaipu entre le Brésil et le Paraguay et la tour CN
à Toronto. Ah, vous avez déjà vu ça.
Ça, vous voyez, vous la connaissez Bon, donc en fait, il faut savoir, c'est une liste qui est faite par des Américains, je vous l'accorde, mais il n'empêche que le Golden Gate reste un symbole incontournable et identifiable au premier regard. Mmh. Et notre merveille est au cœur de l'actualité depuis quelques mois. Avec la Covid, le volume de véhicules qui passent sur le pont s'est effondré au point de revenir au niveau des années 50, selon certains chercheurs. Mais surtout, le pont est devenu chanteur. Il chante depuis le mois de juin. Il y a de nombreux résidents de la baie qui ont confirmé sur la chaîne CNN avoir entendu des notes de musique provenant du pont, et ce, de très 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 loin, à des kilomètres. Alors je cite un témoignage, « Nous avons entendu quelque chose de très triste, comme un puissant didgeridoo ou une mélodie de méditation qui jouait autour de nous. »
Didgeridoo.
Oui, mais voilà, écoutez. Donc une musique qui n'a jamais entendue auparavant.
Alors la presse locale le compare aux sons et musiques des films de David Lynch.
Oui, parce que David Lynch fait souvent des trucs avec le vent, la musique.
Avec didgeridoo.
Enfin, je vous rassure, le pont n'est pas devenu mélancolique ni mystique. Il a simplement subi des transformations afin d'être plus résistant aux grands vents qui soufflent dans cette région. Et c'est une des raisons pour lesquelles ce pont ne faillit jamais voir le jour. Le challenge technique était titanesque avec des vents qui font parfois plus de 80 km/h, voire plus. Il est mort de rire. Et lorsque dans les années 20, un ingénieur, Joseph Strauss, conçoit ce projet gigantesque, il est confronté à de nombreux opposants. Les gens trouvent son idée beaucoup trop dangereuse et puis aussi trop onéreuse. À cette époque de grande dépression. Alors, notre architecte ne lâche pas l'affaire et après 14 années de combat, il parvient à faire voter un budget de 35 millions de dollars pour la construction de son œuvre. Alors, ils vont commencer en 1933 et terminent 4 ans plus tard, en mai 1937.
Donc 10 ans de moins que le pont de Brooklyn,
oui,
par exemple.
Ça avait mis 14 ans. Alors, il mesure 1970 mètres de long. Il est à 230 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Et il faut savoir qu'il y a 127 500 km de câbles, de quoi faire 3 fois le tour de la Terre. Et donc, Joseph Strauss était traumatisé par les malheurs du pont de Brooklyn, je vous l'avais raconté. Et il a imposé, un truc fou, le port du casque aux travailleurs, des scaphandres aux plongeurs, et il a fait installer d'énormes filets en dessous pendant la construction. Malheureusement, ça n'a pas empêché quand même qu'il y ait 12 ouvriers qui perdent la vie durant le chantier. Alors, ce qui symbolise particulièrement le Golden Gate, c'est quoi ? C'est sa couleur.
La couleur, le fait qu'il soit suspendu, un, et la couleur.
Oui, la couleur aussi. Et vous savez qu'en fait, ça a été décidé complètement par hasard, parce qu'à l'origine, ils appliquent une couche anti-corrosion, qui est orange, de protection contre les conditions météorologiques qui sont très particulières là-bas, et ils se rendent compte que cette teinte offre une meilleure visibilité lorsqu'il y a du brouillard, et surtout que le contraste est beaucoup plus beau avec le bleu de l'océan. Et okay. L'orange s'impose donc naturellement.
Et lors de l'inauguration, un journaliste demande à l'ingénieur si sa création ne risque pas d'attirer des suicides, ce qui n'était pas une mauvaise question.
Non, et bien pourtant, Joseph Strauss, il a été très déstabilisé et un peu choqué par cette question. Il lui a répondu, bah, qui aurait comme idée de sauter du pont? Pas certain qu'il soit véritablement un visionnaire dans ce secteur, puisque depuis, le pont est devenu l'un des endroits où les gens se suicident le plus au monde. Mmh. On a même calculé la vitesse de la chute, qui est évaluée à 120 km/h. Il y a eu 1300 tentatives de suicide, et il y en a une trentaine qui ont survécu.
Ah oui, c'est un bon ratio.
Oui. Alors, pour éviter ce triste taux de réussite, ils ont installé de nombreux téléphones sur le Golden Gate en relation directe avec des conseillers anti-suicide spécialisés. Très bien pour moi, j'ai souvent eu au téléphone. C'est très sympathique. Donc, c'est un monument qui va également devenir la cible préférée des films catastrophes hollywoodiens depuis une petite vingtaine d'années. Parce qu'avant le 11 septembre, les gratte-ciels de New York étaient de loin le terrain de jeu préféré des réalisateurs de films d'action. Mais la chute des tours jumelles a rendu beaucoup plus complexes les scènes de démolition des buildings à New York. C'est très mal vu par la population de la grosse pomme, en fait. N'aime pas trop ça. Donc du coup, le Golden Gate Bridge est devenu un cadre politiquement correct pour le pire scénario d'un réalisateur. Il est loin de New York et il est aussi immédiatement reconnaissable aux États-Unis mais aussi dans le monde entier. Alors, dévasté par une attaque nucléaire dans le dernier Terminator, balancé, je sais pas, dans X-Men comme une vulgaire paire de chaussettes, il est même croqué par un requin géant dans Mega Shark contre Giant Octopus.
Ah ouais, alors, sublime film.
Vous voulez le pitch ou pas?
Non.
Non, et ben ouais, je vous l'évite alors. Alors. Évidemment, il est dans plein d'autres films, James
Hitchcock.
Bond.
Dans les films d'Hitchcock. Hitchcock,
enfin, plein de films. Et aussi dans des films très, très romantiques, parce qu'il y a une vue quand même qui est juste sublime. Alors, pour ceux qui rêvent de traverser l'Atlantique et sont bloqués par la crise actuelle, sachez que ma femme a eu la charmante idée de m'emmener hier pour la journée à Lisbonne. Et à ma grande surprise, on y trouve un pont qui ressemble fortement au Golden Gate.
Ah bon ?
Oui, mais en fait, c'est le même architecte. Donc, d'accord. C'est le même. Il est juste un peu plus petit. Et ce qui est fou à Lisbonne, c'est que c'est une ville qui est très vallonnée. Et on trouve aussi, vous savez... Les cable cars.
Comme à San Francisco.
Donc, si on ne peut pas aller
à San Francisco, on va aller
à Lisbonne.
Mais voilà, tourisme.
Une idée comme ça, paf.
Il y a quand même quarantaine au retour.
Il y a quand même quarantaine au retour de Lisbonne.
C'est orange.
Il y a quarantaine et patates.
Je suis en quarantaine, alors.
Allez,
j'étais hier.
7 jours, oui, voilà. Et bah, vous dire en train de quarantaine, mais pour d'autres raisons, vous, mon pauvre.
Oh, et pourtant ils s'aiment, hein, Jérôme et Nicolas. À bientôt en tout cas, Nicolas Herman. Dans quelques instants, ce sont les informations de midi avec Olivier Nederlin. Et puis on revient avec Entrée sans frapper, bien sûr, avec deux invités, Sarah Biasini pour un livre et Noé Preschoff pour un album. C'est son premier album qui sort en avril prochain. À tout à l'heure.
11h30, 13h, Entrée sans frapper sur la première.
Parlons business sur la première. Entrepreneurs, investisseurs ou simplement curieux, vous voulez connaître les nouvelles tendances dans les investissements, les activités économiques ou encore la vie en entreprise? Ne manquez pas Parlons business. Du lundi au vendredi, vers 13h15 sur la première et quand vous voulez sur RTBF Ovio.
BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change.
Ce mois-ci, Loïc Notet est le guest du magazine Gaël. Le Billy Elliot de Charleroi, aujourd'hui coach dans The Voice Belgique, nous raconte ses différences, devenues forces. En prime, ses complices de The Voice, BJ, Tiff Barrow et Maureen Lewis, se glissent aussi dans les pages du magazine.
Gaël, vous avez tout pour vous.
La première.
Météo.
Bonne journée à tous. La pluie va donc gagner rapidement toutes les régions et cet après-midi, il va bien pleuvoir, surtout en fin d'après-midi, début de soirée. On attend des rafales de vent jusqu'à 50 km/h de secteur sud. La douceur est toujours de mise. 7 degrés sur les Hauts-de-Fagne, 9 degrés sur le reste de l'Ardenne, 11 degrés sur l'extrême sud et le Sion-Sambre-et-Meuse et 12 degrés à Bruxelles, Tournai, Gand et Liège. Pour la nuit prochaine, la zone de pluie s'évacue assez rapidement. On revient à des températures de moins 1 à plus 2 degrés avec quelques bancs de brume ou de brouillard parfois givrant en Ardennes. Demain, grisaille en matinée, surtout sur le sud, et puis ensuite des éclaircies l'après-midi. On attend de 8 à 11 degrés. Le week-end, lui, sera franchement printanier.
Un projet de maison, d'appartement, de rénovation. Optez pour la qualité Thomas et Piron, votre partenaire depuis 45 ans.
Il est midi. Bonjour à tous. La mobilisation tout d'abord du secteur Horeca à Bruxelles et en région Wallonne à partir d'aujourd'hui à travers un stop challenge sur les réseaux sociaux porté par deux collectifs. Ils demandent au gouvernement de revoir sa stratégie pour une réouverture des établissements en avril. Concrètement, les acteurs du secteur et l'ensemble de la population sont appelés à charger une photo de profil en utilisant le logo stop. Les organisateurs demandent d'envoyer des messages par ailleurs, messages en masse aux Premier ministre. Le gouvernement fédéral qui est par ailleurs pointé du doigt dans un rapport intermédiaire formulé par quatre experts, des experts qui accompagnent la commission spéciale Covid à la Chambre et parmi eux le professeur de santé publique Yves Kopiters et l'infectiologue Leïla Belkir. Leur conclusion, la crise Covid n'a pas été gérée assez rapidement et adéquatement dès son début. Nous y reviendrons tout à l'heure dans le journal de 13h. Quatre adolescents devant le tribunal de la jeunesse de Charleroi, la première audience dans le cadre de ce procès, de ces quatre procès distincts, en réalité, a débuté ce matin. Ces jeunes sont poursuivis pour harcèlement. Ils sont accusés d'avoir diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo d'une adolescente de 14 ans qui a mis fin à ses jours, c'était en janvier 2020. Les bureaux de poste exceptionnellement fermés demain. Chez nous, c'est ce qu'on appelle à la poste un jour de service adapté, comme par exemple le 31 décembre. Les points poste et les points colis resteront ouverts. La livraison du courrier, colis et journaux sera par ailleurs assuré normalement. On termine avec le tennis à l'Open d'Australie et la qualification d'abord de Novak Djokovic pour sa 9e finale à Melbourne ce matin. Il a déjà 8 titres empochés. Le Serbe s'est imposé face à l'invité surprise de cette demi-finale, le Russe Karatsev, 114e joueur mondial. Novak Djokovic sera opposé en finale soit au Russe Medvedev, soit au Grec Tsitsipas. Enfin, la finale dames opposera l'Américaine Jennifer Brady à la Japonaise Naomi Osaka. Osaka qui s'est qualifiée ce matin en battant l'Américaine Serena Williams. Merci d'être avec nous. Bel après-midi.
Retrouvez toute l'info sur rtbf.be.
Chez Midirect, votre argent rapporte jusqu'à 6 fois plus. Que répondrait votre banquier si vous lui demandiez de s'aligner ?
Nous aligner ? Mais enfin, on vous a déjà offert un sac de sport, allons.
Recevoir jusqu'à 6 fois plus d'intérêts ? Bienvenue chez Midirect, la meilleure banque d'épargne d'après guideépargne.be. Plus d'infos sur midirect.be.
La première présente, Enfer, l'exposition de paysages industriels par le photographe Joss Straven au bois du Casier. Capturés de manière originale, ces panoramas de la sidérurgie wallonne et ces paysages urbains rendent hommage à l'essence même de ces sites. Surfez sur leboisducasier.be pour réserver votre visite.
La première, 11h30, 13h, entrée sans frapper.
Et c'est la suite d'entrée sans frapper avec ce midi Evians, Marie-Agnès Baupin, Catherine Robert et deux invités qui vont nous rejoindre dans quelques instants. Sarah Biasini sera des nôtres. Elle est comédienne, auteure. Elle raconte dans La beauté du ciel, publiée chez Stock, un pont entre sa fille et sa mère qui n'était autre que Romy Schneider, qui a disparu quand elle avait 4 ans et demi. Nous en parlons avec elle, bien sûr, tout à l'heure. À nous, c'est le titre d'un album et de la chanson qui ouvre cet album, le premier album d'un jeune auteur et compositeur belge qui fait beaucoup parler de lui depuis un an. Il s'appelle Noé Préchoff. L'album est prévu le 2 avril prochain. Ce midi, Noé Préchoff, lui, est prévu dans seulement quelques minutes. Et puis, en fin d'émission, quatrième épisode de Selectorama, le feuilleton que nous propose Jean-Marc Panis, qui sera consacré aujourd'hui à l'auteur de bande dessinée, Alix Garin.
La première.
Entrée sans frapper.
Éric Russon.
Et pour commencer cette deuxième partie d'entrée sans frapper, voici une chronique de la mort qui tue avec Adeline Dieudonné, qui en octobre dernier évoquait Jack London.
11h30, 13h.
Entrée sans frapper sur la première.
Adeline Dieudonné.
Oui, Jérôme Collin. L'expérience la plus traumatisante dans la vie, c'est la mort.
La mort.
Les gens sont traumatisés par leur propre trépas. Et c'est la raison pour laquelle je leur rends visite chaque nuit dans les cimetières où ils reposent, pour qu'ils me racontent leurs derniers instants et qu'ils soulagent leur peine. Cette fois-ci, je vous emmène en Californie, dans le Jack London Historic Park, pour rencontrer Marguerite Duras.
Mais non.
Jack London. Ou je sais pas. Voilà, il y avait un indice dans le nom de l'endroit. Ça s'appelle le Jack London Park. Donc on va rencontrer Jack London.
Et comment va-t-il notre Jack London, ce génie?
Il est mort, Jérôme, réfléchissez un peu, comment va-t-il? Il est mort, et ce depuis 104 ans, depuis le 22 novembre 1916. Non, en vrai, il va pas trop mal, parce que vous savez ce qu'il m'a dit? Non. Et j'ai trouvé ça très beau, alors je vais vous le répéter ici. Il a dit « La mort est douce, il n'y a que la vie et toutes les choses inhérentes à la vie qui blessent. N'empêche, nous aimons et haïssons la mort. N'est-ce pas étrange ?»
Oh, dites donc, ça calme.
Ça calme, hein. Donc, Jack London, auteur américain, né le 12 janvier 1976 à San Francisco.
1876
à San Francisco. Mort le 22 novembre 1916, je viens de le dire. Est-ce que vous suivez un petit peu? Auteur de plein de romans, de nouvelles, de récits, dont L'Appel de la forêt, Cro-Blanc, Le Talon de fer, Martin Eden, La peste écarlate, Radieuse aurore. Il savait faire des chouettes titres, hein, lui aussi. Mm-hmm. Construire un feu, Le mort qui tue, c'est pas rigolo ça, hein, hein. On chronique un gars qui a écrit une nouvelle qui s'appelle Le mort qui tue dans une séquence qui s'intitule La mort qui tue.
C'est bien, c'est très drôle Adeline, on est très contents. Et de quoi il est mort?
Certains ont évoqué le suicide à cause de sa consommation de morphine et de son roman Martin Eden dans lequel il évoque la vie d'un écrivain qui pourrait ressembler à la sienne et qui finit par un suicide. Mmh. Mais la majorité de ses biographes retiennent la majorité la cause de la mort qui est inscrite sur son certificat de décès, qui est l'urémie.
Ah bon ?
C'est quand il y a un défaut de la fonction rénale qui entraîne un taux d'acide urique trop élevé dans le sang, ce qui entraîne la mort,
okay.
Si j'ai bien compris. Il est mort à l'âge de 40 ans seulement.
Très jeune, hein.
Ouais, très très jeune. Bon, sa vie n'avait déjà pas commencé sous les auspices les plus funky. Son père abandonne sa mère alors qu'elle est enceinte. Du coup, elle essaye de se suicider deux fois. Le petit Jack arrive quand même au monde dans ce contexte et il s'appelle à ce moment-là John Cheney. Sa mère rencontre alors un homme qu'elle va épouser et qui s'appelle John London. Mais comme il porte le même prénom que le petit, ils se disent que ça va être un peu compliqué à la maison, alors ils rebaptisent le petit Jack.
Ah donc on change le prénom de l'enfant, pas de l'adulte.
Non.
C'est pas du tout traumatisant, c'est chouette.
Non, bon il avait 8 mois, hein. Mais bon, effectivement. Ainsi naquit Jack London.
C'est fou cette histoire.
C'est fou, hein. Ils sont relativement pauvres. Jack va découvrir la littérature à l'âge de 9 ans, grâce notamment à une romancière britannique, Ouida, que je ne connaissais pas, mais... Mm-hmm. Sur laquelle je vais me pencher pour une prochaine mort qui tue. Et à son roman Signa, qui raconte comment un enfant de ferme devient un grand compositeur d'opéra. Ce qui fera comprendre au petit Jack que l'art peut le sortir de sa condition. En 1886, il découvrira la bibliothèque de la ville et sa bibliothécaire, Ina Coolbrith, qui est elle-même une poétesse renommée. Elle l'initiera à la lecture. Il exercera de nombreux métiers pour survivre, ouvrier en usine, débardeur, tondeur de pelouse, nettoyeur de tapis, laveur de vitres, pilleur d'huîtres, patrouilleur maritime, matelot, pelleteur de charbon, blanchisseur. Il sera également vagabond, il connaîtra le bagne, ce qui explique que la lutte des classes est extrêmement présente dans son œuvre. Il sera un fervent militant d'extrême gauche. Le succès viendra néanmoins relativement tôt, à l'âge de 27 ans, en 1903, avec L'Appel de la forêt qui se vendra à plus de 2 millions d'exemplaires de son vivant. Il va devenir extrêmement riche. Il y aurait des millions et des millions de choses à dire à propos de Jack London, mais vous savez qu'on n'a que quelques minutes ici. Et vous savez que j'aime bien laisser le mot de la fin aux morts.
Oui.
Alors voilà. Il y a déjà une petite phrase que j'aime beaucoup qui montre que Jack London était peut-être un petit peu féministe avant l'heure. Enfin non, pas avant l'heure, parce que le féminisme existait déjà, mais... Les hommes dépendent économiquement de leurs patrons, comme les femmes dépendent économiquement de leurs hommes. Le résultat, c'est que les femmes reçoivent les raclées que les hommes devraient donner à leurs patrons, et sans avoir le droit de se plaindre. Est-ce que c'est pas magnifique, ça? Et une dernière sur la mort, qui est magnifique, qui est la fin de Martin Eden. La mort ne faisait pas souffrir. C'était la vie. Cette atroce sensation d'étouffement. C'était le dernier coup que devait lui porter la vie. Ses mains et ses pieds, dans un dernier sursaut de volonté, se mirent à battre, à faire bouillonner l'eau faiblement, spasmodiquement. Mais malgré ses efforts désespérés, il ne pourrait jamais plus remonter. Il était trop bas, trop loin. Il flottait languissamment, bercé par un flot de visions très douces. Des couleurs, une radieuse lumière l'enveloppait, le baignait, le pénétrait. Qu'était-ce ? On aurait dit un phare. Mais non, c'était dans son cerveau cette éblouissante lumière blanche. Elle brillait de plus en plus resplendissante. Il eut un long grondement et il lui sembla glisser sur une interminable pente et tout au fond, il sombra dans la nuit. Ça, il le sut encore. Il avait sombré dans la nuit. Au moment même où il le sut, il cessa de le savoir.
C'est ce qu'on appelle un grand écrivain.
C'est ce qu'on appelle écrire.
Wake up some mornings Thank God not as often as I used to. Slow and heavy from dreams with you. You found a way back in, once again my long lost friend. Funny to see that after all these years I miss you the same. So I drag myself to the corner cafe, and for a second I see you there, like in the good old days. And I wonder what you're doing, what are you up to these days? I sometimes wish you would call me, but then I wouldn't know what to say. And I see you in every cab that goes by, in the strangers at every crossroad, in every bar. I see you in every cab that goes by, in the strangers at every crossroad, in every bar. It takes a glass or two for it to settle down, for your shadow to stop following me around. I find myself walking back to all the places we knew, dreaming and wishing to somehow run into you. And of course I wonder, does it happen to you? Does my ghost ever come looking for you? 'Cause all that's left now are my dreams and memories. But I'm glad you came through my life and put your stain on me. In every cab that goes by, in the strangers at every crossroad, in every bar. And I see you in every cab that goes by, in the strangers at every crossroad, in every bar.
I See You, c'est un souvenir avec Lou Doyon.
11h30, 13h.
Entrez sans frapper sur la première.
Et nous recevons Noé Préchoff en direct ce midi. Bonjour Noé Préchoff.
Bonjour.
Vous êtes né à Bruxelles, vous êtes auteur, compositeur, interprète. Je vais d'abord faire le petit portrait. Hein. La musique entre dans votre vie, d'abord avec le violon, puis c'est la guitare. Quelques milliers, dit-on, de maquettes plus tard. Vous jouez dans un groupe, puis vous signez avec un label en 2019. On se rapproche. Première partie de Vincent Delerme à La Cigale. Et enfin, un premier single qui sort le 10 mars. 2020. La chanson s'appelle « À nous ». Ce titre tombe en pleine crise sanitaire, confinement, applaudissements aux fenêtres. Le public a besoin d'entendre ces mots, vos mots. Et puis, la chanson précède un EP qui sortira en septembre. Cette chanson vous vaut d'être bombardée, découverte des médias francophones. Alors, il y a eu Fête de la musique sur France 2, Fête de la musique sur la Grand Place, ouverture des Nuits Botta avec Yael Naïm. Jusque-là, tout va bien. Deuxième fermeture des salles de spectacle, nommée aux victoires de la musique pour la révélation masculine. Juste nommée, mais je trouve que c'est déjà une belle victoire. Et puis dans quelques semaines, le 2 avril pour être précis, sortie de votre premier album intitulé « À nous ». Et nous allons bien sûr parler de cet album, nous allons en écouter des extraits. Quelle drôle de période quand même pour faire son entrée dans la chanson. Vous écrivez depuis une dizaine d'années, vous vous préparez forcément depuis une dizaine d'années à rencontrer le public et puis boum. Comment est-ce que vous vivez cette période ?
Ah, c'est très étrange. Et en même temps, le fait que cette chanson, voilà, que Anou soit sortie au moment du premier confinement et qu'on m'ait dit que ça accompagnait assez bien cette période, je me dis que ça devait arriver comme ça. C'est comme ça que je me le raconte. Ouais. Mais après, effectivement, ce qui est très difficile, c'est de se préparer à des choses qui n'ont pas lieu. En fait, je pense aux musiciens, musiciennes et aux répétitions. C'est ça, en fait, hein, qui est très étrange.
Alors, cette chanson, justement, c'est la chanson qui ouvre l'album. On va en écouter un court extrait de Anou. C'est la chanson qui donne aussi le titre à cet album.
À nous qui ne jouons ni aux pauvres ni aux fous, parce qu'on en voit d'autres sombrer face à nous. On peut avoir un toit et une corde au cou, on peut avoir les droits et marcher à genoux.
Vous écrivez aussi à nous qui imploserons et ça ne saurait tarder. Vous avez écrit cette chanson qui colle parfaitement à notre quotidien confiné bien avant cette crise sanitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous sentiez... alors, vous n'êtes pas un devin non plus, mais que vous sentiez qu'à un moment donné, il y a des choses qui existaient dans cette société et qui ont été exacerbées par la crise.
En tout cas, cette chanson m'est tombée dessus et je sentais qu'elle correspondait à quelque chose qui allait arriver. Ça c'est clair. Après, par rapport à la période, peut-être il y a ce truc de toute façon le nous n'existe pas. Hein. On sait, ça n'existe pas. C'est toujours un petit peu imaginaire. Alors peut-être que là ça faisait écho parce que justement du fait d'être confiné, on rêvait comme ça, on rêve d'un nous et de se retrouver, etc.
Ouais.
Et donc le nous paraissait presque encore plus imaginaire, quoi. Mais effectivement, vraiment quand j'ai écrit la chanson, je me suis dit ça correspond à quelque chose qui est moi, qui est une chanson que j'ai toujours voulu écrire justement sur cette impossibilité de vraiment me positionner et être, comme on dit aujourd'hui, lisible. Hein. Faut être lisible. Et il faut l'être dans une certaine mesure pour soi-même. Faut être lisible envers soi-même. Mais il faut quand même garder une forme de chaos, pour moi. Mmh. Et donc, voilà, cette chanson, c'était ça.
Il y a quelque chose dans l'album qui ressemble fort, évidemment, à cette chanson, puisque, elle est de vous. C'est le passage du « à nous » à vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans cette chanson, vous quittez l'individu pour parler au collectif, quelque part, et j'ai l'impression que dans l'album, c'est un petit peu ça. Il y a bien sûr vos questions, les questions que vous vous posez sur vous, sur votre chemin, etc., et puis toutes les questions que vous vous posez sur le collectif, les autres. Mmh. Est-ce qu'on est en manque de collectif ?
C'est-à-dire que en même temps, moi, je suis un solitaire et je fuis les foules, etc. Mais effectivement, il y a un manque de collectif, de comment on se parle, en fait. Moi, c'est ça surtout qui me trouble depuis toujours, depuis l'enfance. C'est ça, c'est toujours cette manière de me protéger. Mais vraiment avec les années et avec les écrans et moi, c'est ça, c'est comment on se parle, en fait. Et c'est ça qui faut retrouver. Mais, chacun planqué derrière son écran, c'est effrayant, quoi.
Ouais.
C'est juste effrayant.
C'est parfois une question de vocabulaire, parfois on ne se comprend plus parce qu'on ne parle plus la même langue, non, dans le collectif, notre quotidien.
Oui, c'est ça, et puis parce qu'on ne se pose plus, parce que ça va trop vite, parce qu'on est bombardé de séries, de trucs comme ça pour passer le temps, et il y a trop, ça va dans tous les sens. Mmh. Et puis la musique, et puis on passe d'une chanson à une autre, et puis alors que c'est se retrouver autour d'un album, l'écouter à plusieurs dans une pièce, et dire, cette chanson-là, un peu longue, c'est ça, quoi. C'est ça, vivre.
Ouais. Une autre chanson, on va écouter un extrait, c'était le deuxième single, Que tous dansent.
Tu me dis que tous dansent, même la gêne, même la haine, même l'errance. Que tous dansent, la solitude, l'état de siège.
On écoutera encore quelques extraits et puis comme je l'ai dit, une chanson en entier tout à l'heure de cet album À nous de Noé Prechov qui est avec nous ce midi. Vous l'avez dit, aujourd'hui comment est-ce qu'on écoute les albums, c'est devenu un peu des sons. Alors oui, il y a aujourd'hui une écoute différente, une consommation entre guillemets différente des chansons. Néanmoins, j'ai l'impression que vous avez construit votre album à l'ancienne, c'est-à-dire que ça raconte une histoire, il y a des espèces de recherches de rythmes différents, d'atmosphères différentes.
Oui, j'ai beaucoup coupé, j'ai retiré beaucoup de chansons qui auraient pu y être, et puis je suis arrivé à ce chiffre-là, il y a 13 chansons,
ouais.
et je voulais effectivement quelque chose d'assez équilibré, qu'il y ait un petit manque, et que ça raconte une histoire, et d'ailleurs ça s'ouvre avec Nous marcherons, et ça se termine par une chanson qui s'appelle J'entends d'ici, qui dit tu marches, et depuis je marche aussi, donc il y a un récit vraiment, et c'est cet aller-retour, comme on disait, avec le nous et le vous, et la chambre, et le monde extérieur, et la fenêtre ouverte, et vraiment, c'est pour ça aussi que j'ai appelé la chanson chanson à nous, c'est pas par facilité, c'est parce que ça veut dire quelque chose. Déjà, c'est pour moi m'en rappeler, parce qu'à force de parler de cette chanson, parfois j'oublie d'où elle vient, et donc c'était aussi pour ça que je voulais donner ce titre-là à cet album, et puis parce que vraiment, c'est ça l'album, quoi. C'est vraiment l'intimité, et puis quand même le monde extérieur, et d'ailleurs le « vous » dont on parlait juste avant, ouais. C'est pas pour se donner bonne conscience à vous de l'autre côté du mur ou de la mer, c'est pas « ah oui, il faut cahier des charges », pas du tout, c'est parce qu'effectivement, c'est comme ça, j'ai ça dans le sang, dans mon ouais. histoire, voilà.
Vous définissez comme un électron libre, c'est facile de l'être dans le milieu de la musique quand on signe un contrat avec une maison de disques, etc.
Bah oui, parce que c'est clair dès le début, c'est clair quand on s'est rencontré avec la maison de disques tôt ou tard, ouais. On a compris quoi, que voilà, moi je suis comme ça, je fais mes trucs, et en même temps j'aime bien me retrouver avec d'autres artistes que j'aime, quand je les aime, etc. Donc je suis pas non plus comme ça dans ma tanière, mais enfin dès lors que c'est respecté et qu'on se respecte, etc. Oui, c'est facile quand on a confiance en ses chansons, en fait, quand on triche pas et qu'on a confiance en ce qu'on fait, ouais. Je dis pas en ce qu'on est, mais en ce qu'on fait, franchement, il y a plus qu'à faire. Quoi.
Quelle est la couleur de cet album ? Les albums ont une couleur, voilà, il y a des dominantes évidemment. Quelle est la couleur de cet album ? Vous vous définissez comme quelqu'un qui n'aime pas trop, qui est mal à l'aise avec la légèreté, et pourtant, je veux dire, dans les musiques et dans les arrangements de cet album, ben, il y a vraiment de tout. Il y a de la nostalgie, mais il y a aussi de l'énergie.
Il y a de la légèreté.
Comment vous avez construit cette couleur et quelle est la couleur de cet album ?
Alors, je suis daltonien, donc peu importe ce que je vais vous dire, ça vaut ce que ça vaut. Je dirais que les maquettes étaient mauves et que le résultat est orange, quelque chose comme ça. Ou orange.
C'est-à-dire un mélange de couleurs. Il y a du jaune et du rouge alors.
Ah c'est ça orange. Alors ouais, c'est ça. Ouais. Eh ben il est orange et il est peut-être vert quand même. Enfin voilà, à l'image de ma chemise, on ne sait pas trop. Mais mais voilà, c'est ça. Et donc effectivement, un mélange de couleurs, d'énergie, mais qui se complète. Et on parlait du fil rouge. Je voulais quand même un album qui est un son globalement cohérent, mais dans lequel il y a cette chanson qui s'appelle Les Poches Vides, qui est quasi un vrai guitare-voix, parce que aussi le sujet de la chanson, qui parle des années 60-70, etc. Et donc il y a ce vrai guitare-voix, c'était important, mais il y a aussi des chansons, il y a Faire les choses bien, en duo avec une jeune chanteuse qui s'appelle Leila Lachterman, et qui est un truc beaucoup plus rythmé, ouais. Parce qu'effectivement, j'ai ça aussi, quoi. J'aime quand ça y va, et puis je pensais beaucoup au concert, et là, on a commencé à répéter, et on s'éclate, quoi.
Ouais. Alors, bah, comme chaque fois, bah, on picore, évidemment, dans ces albums, que l'on nous propose, et on a picoré notamment ceci, ça s'appelle Cette route-là, extrait.
On ne choisit pas cette route-là, mais on n'étouffe pas une flamme comme ça. On ne choisit pas ce sentiment-là.
Cette route-là, et puis je vous ai avoué juste avant qu'on ne prenne l'antenne que ma préférée sur cet album, c'est celle-ci, Ce silence.
Ce voyage que j'ai fait muet, qui m'a fait muet, cache une tache, une honte, une plaie.
Alors, je peux pas vous dire pourquoi c'est ma préférée, juste dès que je l'ai entendue, j'ai dit « Ah, elle est formidable cette chanson-là, comme les autres, mais j'ai un coup de cœur », m'avait dit que c'est une de vos préférées aussi.
Oui, parce que c'est une chanson mystérieuse pour moi aussi. La part d'inconscient est vraiment très grande dans mon travail, et ça représente bien ça. C'est-à-dire que c'est pas une chanson... Oui, moi je sais de quoi elle parle, il y a quelque chose de très dur, mais en même temps je trouve qu'elle fait sa vie sans avoir besoin d'en parler, et que ça ouvre mille portes. Je l'aime musicalement, j'aime son refrain qui est là sans être trop appuyé, ouais. Et puis cette guitare nylon qui est ma toute première guitare de quand j'avais 11 ans, enregistrée de manière comme ça très brute, dans le studio de Romain et Ziggy, avenue de la Couronne, ouais. J'adore cette chanson, ouais.
Vous dites que vous chantez depuis la place que vous occupez et que vous avez les armes dont vous disposez. On a l'impression que vous dites aux gens, ben voilà, je ne suis que chanteur, ce ne sont que des chansons, faites-en ce que vous voulez, moi je vous transmets des messages, c'est un peu ça.
C'est ça, et en même temps, moi je crois quand même très fort aux chansons. Je crois que les chansons, c'est jamais que des chansons. Si les chansons changent les gens, les chansons changent le monde. Et, ouais. Et ma vie, ce n'est que les chansons, de toute façon. Mon rapport aux autres, que ce soit en tant qu'auditeur ou en tant que musicien, ma vie tourne autour de la musique et de la chanson, quoi.
En tant qu'auditeur, c'est Léo Ferré, paraît-il, et c'est aussi Bernard Lavilliers. Didier. Alors, ce sont deux classiques, hein, qui étaient déjà connus et qui avaient du succès avant votre naissance, même. Mm-hmm. Ce sont deux piliers. Il y a d'autres choses, je suppose.
Il y a plein de trucs. Lavilliers, effectivement. Et d'ailleurs, j'en parle dans une chanson, moi qui suis plutôt allergique au name dropping. Dans Les Poches Vides, justement, je parle. Ouais. Lavilliers, Ribeiro, Higelin, Fontaine. Mm-hmm. Et tout ça. Et Lou Reed, Barbara. Mais c'est vraiment ça. Mais il y a plein de figures. Et puis, en vrai, moi je m'encombre pas du tout de la mémoire. Effectivement, il y a des choses. Ferré, ça me bouleverse. Brigitte Fontaine, ça me bouleverse. Mais il y a plein de trucs actuels. Moi, je suis très curieux de ce qui se fait. Et donc, franchement, j'écoute vraiment plein de choses, quoi. Je suis pas resté bloqué du tout sur ces années-là. Et je crois d'ailleurs que ça s'entend dans la musique que je fais et que MC Solar a compté autant que Yves Montand, quoi.
Mais ça reste le texte quand même. Le texte à la base.
Ouais,
c'est des chansons, c'est des poètes.
Ouais, c'est le point de départ. C'est clair que moi, je travaille beaucoup les mélodies parce que j'adore ça. Certaines mélodies de Goldman, etc. Moi, j'adore la mélodie. Mmh. Mais c'est vrai que je fais pas des trucs, comme on dit, en yaourt, une mélodie hyper accrocheuse en me disant ah, c'est... et puis y mettre des mots parce que non, c'est vrai que ça part soit c'est paroles et musique en même temps, soit ça part quand même du texte écrit comme ça dans un carnet au bord d'un étang. Voilà.
Une dernière question, Noé Préchoff. J'ai l'impression que la question de l'enfant traverse aussi cet album. On entend dans plusieurs chansons cette question-là. Est-ce que c'est la question de l'enfant qui est en vous ou de l'enfant dont vous pourriez être le père dans l'avenir ?
Bah, c'est ces deux. En fait, c'est la même. Mais ça, c'est un sujet assez compliqué, enfin assez dense, mais c'est la même. C'est effectivement, il y a l'étang qui dit moi, je reviens toujours à cette place, toujours à cet étang, toujours à celui que j'étais. Si j'étais un enfant, je donnerais mon pain aux oiseaux qui sont là. Et puis, il y a la question, il y a la chanson Exil qui parle là d'un parent qui a dû laisser son enfant pour traverser la mer, le mur, la frontière. Mais c'est vrai que cette question-là, soit des familles déchirées, soit de l'enfant que je n'aurai jamais, soit. C'est central et maintenant en voyant cette photo de moi-même en face, je me dis c'est aussi parce que la chanson, je vous dis, c'est le centre de ma vie, mais parce que ça part de l'enfance, quoi. Vraiment, ouais. À 3 ans, hop, ma vie, ce n'est que la chanson, le reste, ouais. Et bon, le cinéma, la poésie, mais quand même, quoi,
c'est le centre. Merci beaucoup, Noé Préchoff. Ça m'a fait très plaisir de vous recevoir. L'album sort donc le 2 avril prochain. L'album s'appelle À nous, et puis les concerts, bien sûr, on les annoncera en temps et heure. Voici tout de suite, pour nous quitter, un autre extrait de cet album, Le Monde à l'envers. Merci beaucoup, Noé.
Merci à vous.
Ces deux amis comme ça, revenant du cortège, et c'est elle et c'est lui, comme ça, prise au piège. Puis une clé de bras, respiration brisée, un coup dans les tibias de cette matinée. C'est le monde à l'envers, hurlé sur le bitume, et un genou à terre, la rage qui se rallume. Ces deux amis comme ça, projetés sur le sol, les fringues arrachées, l'espoir qui dégringole, poussés dans le fourgon, les poignets défoncés. Ces deux amants comme ça, qui ne faisaient que passer. C'est le monde à l'envers, et c'est l'envers du monde, le dégoût qui grandit et l'orage qui gronde. Possible que le vent change de partenaire, possible que sous la porte il y ait de la lumière, possible que la rue reprenne des couleurs, possible si j'en crois tes lèvres sur ma peur. Le prétexte, on le connaît, on le refuse. Sous prétexte de quoi, ces matraques qui fusent. On connaît le refrain depuis la nuit des temps. L'ivresse du pouvoir, le fourgon dans le vent. Les épaules qui craquent, le jour qui dégénère. Quelques côtes fêlées et le monde à l'envers. Je parle d'où je parle avec mon ADN. Et ce sang fugitif qui coule dans mes veines, qui ne fait qu'un seul tour dans sa fidélité, qui ne fait qu'un seul tour pour ne plus accepter la fièvre vissée au point gueulée debout et fière, pour qu'enfin se retourne ce monde à l'envers. Possible que le vent
change de partenaire. Possible que sous la porte, il y ait de la lumière. Possible que la rue reprenne des couleurs. Possible si j'en crois tes lèvres sur ma peur. Possible que le vent change de partenaire. Possible que sous la porte, il y ait de la lumière. Possible que la rue reprenne des couleurs. Possible si j'entends slalom et la rumeur. Possible, 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 possible. Ces deux amis comme ça, revenant du cortège. Et c'est elle et c'est lui, comme ça prise au piège. C'est le monde à l'envers, et c'est l'envers du monde. Le dégoût qui grandit, et l'orage qui gronde.
Le monde à l'envers, chanson qui se trouve sur l'album de Noé Préchauffe que nous recevions il y a quelques instants. L'album s'appelle À nous, sorti le 2 avril.
La première.
Entrée sans frapper.
L'histoire du cinéma, c'est sur La première, dans Décadrage. À l'affiche, le cinéma burlesque.
La première projection publique en 1895, on passe un film burlesque. C'est L'arroseur arrosé, c'est un gag, ça dure quelques secondes, mais c'est finalement le premier geste qu'ont fait les frères Lumière quand ils ont mis au point leur outil, ça a été de filmer un gag.
Le cinéma burlesque.
Une série écrite et réalisée par Jean-Louis Dupont dans Décadrage.
À découvrir sur lapremière.be et sur RTBF Ovio.
Attention, cette offre va vous scier. Jusqu'à ce samedi chez Aldi, 400 g de Buchardonnaise belge pour seulement 2,79€. Conditions et magasins participants sur aldi.be.
Tous ensemble, nous pouvons vaincre le coronavirus. Continuez à vous protéger et à protéger les autres. Voici les règles de base. Lavez-vous régulièrement les mains. Portez un masque. Respectez la distance de sécurité. Limitez-vous à un contact rapproché. Pensez aux personnes vulnérables. Travaillez à domicile, aérez les espaces intérieurs et pratiquez vos activités de préférence à l'extérieur. Tenez bon, ensemble, nous y arriverons. Retrouvez toutes les règles sur info-coronavirus.be et informez-vous sur les mesures locales. Une initiative des autorités belges.
De 11h30 à 13h,
entrez sans frapper sur La première.
Sarah Biasini est notre invitée ce midi. Bonjour Sarah Biasini.
Bonjour.
Bonjour, on est ravis de vous recevoir. Vous êtes en duplex depuis Paris. Et nous avons le plaisir de vous accueillir dans cette émission pour La beauté du ciel, publiée chez Stock. Sarah, vous êtes comédienne. On vous a vu au cinéma, à la télévision, mais surtout au théâtre. Vous avez joué, entre autres, dans Mademoiselle Julie, La mégère apprivoisée, ou encore Le fil à la patte. La beauté du ciel, c'est votre premier texte publié. Un livre dans lequel vous vous adressez à votre fille. C'est d'ailleurs comme ça que vous l'appelez, d'ailleurs, hein, La beauté du ciel. C'est un travail, vous dites, entre la vie et la mort, deux axes qui traversent votre vie depuis toute petite. On ne l'a pas encore précisé, Sarah Biasini, pour ceux qui l'ignoreraient. Vous êtes la fille de Romy Schneider, décédée lorsque vous aviez 4 ans et demi. Et ce texte est un fil que vous tendez entre ces deux êtres, votre mère et votre fille, un fil évidemment qui passe par vous. C'était pour quoi, en fait? C'était pour vous la réapproprier quelque part. Vous l'écrivez, Romy Schneider est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Elle ne vous appartient pas, elle appartient au public.
L'actrice,
oui.
C'est-à-dire que c'est pour ça que je choisissais délibérément de ne pas écrire son nom d'actrice, mm-hmm. parce que d'abord ce qui m'intéressait c'était de raconter une histoire entre une fille et sa mère,
ouais.
Et non pas de m'axer sur le cinéma, mais effectivement, oui, je si vous voulez, la notoriété et le métier de ma mère, en tout cas, ne m'intéressaient pas pour ce livre.
Mais comme vous l'avez dit, hein, vous ne l'appelez pas, vous dites ma mère, maman, etc. Ce que nous ferons aussi d'ailleurs, maintenant que on a rappelé que vous étiez la fille de Romy Schneider, mais nous n'allons plus désormais l'appeler que votre maman ou votre mère dans cet entretien. Et c'est un livre, c'est un livre formidable qui commence par un coup de fil de la gendarmerie qui vous annonce que la tombe de votre maman a été vandalisée. C'était il y a 3 ans, je pense, et ça a été une une espèce de déclic. Parce que vous avez pleuré ce jour-là à l'annonce de cette nouvelle, et vous n'avez pas pu vous y rendre seul d'ailleurs dans ce cimetière. Ça a été vraiment un déclic pour à la fois l'écriture de ce livre, mais aussi pour tout le travail que vous avez fait.
Oui, c'est vrai. Enfin, c'est-à-dire que quand cet événement, quand je reçois ce coup de fil, tout de suite après, je me dis, mais plutôt que de le ranger dans la catégorie du hasard le plus parfait, je me suis dit, mais c'est... Enfin, en tout cas, je voulais donner un sens à cet événement, à cette profanation. Bon, c'est toujours assez choquant ces histoires de profanation. D'ailleurs, on en entend souvent malheureusement. Mm-hmm. Donc, c'est toujours assez troublant. Mais dans mon cas, bon, c'était pas non plus catastrophique parce que le cercueil n'avait pas été atteint. Que voilà, bon. Mais on cherche, je sais pas, spontanément, en tout cas, j'ai cherché à donner un sens à cette chose, à cet événement, parce que je me disais, bon, mais plutôt que de pleurer gratuitement, ouais. Qu'est-ce que ça me raconte, qu'est-ce que ça m'évoque, qu'est-ce que ça réveille chez moi, etc. Bon. Et puis, il se trouve que 3 semaines plus tard, je suis tombée enceinte pour la première fois de ma vie. Et là, étant donné que j'avais envie d'écrire depuis un moment, je me suis dit, là, si tu ne te sers pas de ces deux événements, de la conjonction de ces deux événements et de l'ouverture incroyablement romanesque que ça peut offrir à une histoire, et à une histoire de famille, on va dire, à une histoire maternelle, là, tu serais vraiment bête. Et donc, voilà. Je me suis dit que ce serait dommage de ne pas m'emparer de l'histoire de ma propre famille pour essayer d'en faire une histoire à part entière. C'est surtout pour ça que je voulais pas mentionner le nom de ma mère, parce que peut-être que je voulais parler de n'importe quelle mère. Mm-hmm. Ce qui m'occupait, c'était l'absence de la mère. Et comment font les enfants après? C'est surtout l'absence.
C'est comme ça que j'ai aussi ressenti ce livre, La beauté du ciel, Sarah Biasini. Je l'ai ressenti comme en effet une femme qui se demande finalement comment s'adresser à sa fille, elle qui n'a pas connu sa mère. Puisqu'on le rappelle, votre mère est décédée quand vous aviez plus ou moins 4 ans, 4 ans et demi. C'est vraiment le fil conducteur de ce presque roman, de ce récit, on va dire.
Oui, c'est vrai. Et puis surtout, je me suis rendu compte au fil de l'écriture, en tout cas, et comme j'ai commencé à écrire juste avant de donner naissance à mon enfant. Mm-hmm. Donc les premiers mois de l'écriture, c'était vraiment les premiers mois de la vie de ma fille, et je me suis rendu compte à quel point, en regardant ma fille, j'étais renvoyée à ma propre enfance. Je voyais ma fille et tout d'un coup je cherchais des souvenirs de moi à son âge. Uh-huh. Et donc je voyais un pont, je voyais comme, je sais pas, un pont, un miroir, enfin plein de choses qui reflètent ou qui relient des personnes entre elles, ou des sensations entre elles, et voilà.
C'est même plus que ça. Moi, je dirais même qu'il y a presque une mise en abîme de tout cela, finalement, sur 3 générations, même sur 4, puisqu'il y a aussi, il y a un personnage qui revient très souvent, un personnage formidable, qui est en fait votre grand-mère paternelle. C'est la femme qui vous a élevé, qui s'appelle Monique, et qui est un personnage magnifique dans ce roman. Donc, il y a vraiment une mise en abîme. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des choses très troublantes, quand même, entre ces deux maternités, entre guillemets, entre la vôtre et celle de votre maman. C'est que votre maman vous a eu plus ou moins à l'âge de 39 ans, c'est-à-dire plus ou moins à l'âge où vous avez eu également votre fille, qui est arrivée dans une famille où il avait déjà un demi-frère. C'est assez troublant, finalement, ces parallèles.
Ben oui, c'est vrai. C'est pas voulu, c'est pas décidé au préalable, mais c'est vrai qu'il y a des similitudes.
C'est pas voulu, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de l'ordre de l'inconscient, ou alors c'est vraiment une coïncidence?
Non, je pense qu'il y a quand même des choses qui appartiennent à la coïncidence pure. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai eu un enfant tard, avec un homme qui avait déjà fait sa vie. Enfin, c'est facile d'arriver, si vous voulez, à 40 ans d'avoir déjà eu une première vie de fête. Ça arrive régulièrement, les familles recomposées, ça arrive souvent. Donc voilà, ça faisait quand même là partie d'une coïncidence. Je n'ai pas cherché à rencontrer un homme qui avait déjà un fils.
Ah non, mais sans doute bien, évidemment.
Non, mais voilà.
Alors, vous écrivez qu'il existe un territoire que seule votre mère et vous connaissez et où vous vous rencontrez. Il ressemble à quoi, ce territoire ? Territoire entre guillemets, évidemment.
Oui, c'est ce que je dis. Je pense que voilà, c'est comme peut-être la Lune ou Mars. C'est un lieu sauvage qui existe. Je pense que c'est in utero, peut-être. C'est là où j'ai sans doute voulu rapprocher ce lieu d'un contexte in utero avec des sons et des sensations d'eau, de liquide, ouais. Des choses comme ça.
Alors, pour rapprocher votre maman, vous avez rencontré des gens qui l'ont bien connue. Au cours de votre vie, vous avez croisé le chemin de Claude Sautet, vous avez croisé le chemin de Michel Piccoli, d'Alain Delon. Ça vous a été nécessaire, finalement, pour vous approcher quelque part d'autres points de vue sur votre maman, non pas comme l'actrice, mais comme la femme qu'ils ont rencontrée chacun d'entre eux.
Oui, je pense que c'était, je pense que c'était une envie que j'avais, une envie naturelle. Je sentais aussi que c'était des rencontres qui allaient me provoquer pas mal d'émotions, donc peut-être que j'ai retardé ces rencontres ou qu'elles ont été. Elles ont eu lieu par l'aide de souvent de tierces personnes, ouais. Oui, je pense que j'avais envie de vivre cette émotion-là, de rencontrer des personnes qui l'ont vécu, qui l'ont connue, qui ont passé du temps avec elle en dehors de la sphère familiale, ouais. Bien sûr.
Il y en a un qui a une place à part, que vous appelez d'ailleurs le chef d'orchestre, c'est Sautet, Claude Sautet, qui l'a tellement bien mise en scène.
Oui. Et puis je pense que entre eux, il y a eu une rencontre incroyable. Vous savez, il y a des moments dans la vie où on est soi-même dans sa vie en pleine possession de ses moyens et deux personnes qui sont en pleine possession de leurs moyens, en pleine maturité, en pleine liberté, en pleine se rencontrent et collabore, et là, ça donne des films que j'ai personnellement beaucoup aimés, et justement des films qui aussi racontent une époque, parce que c'est plus large que simplement le savoir-faire de quelques personnes, et la réunion de ces savoir-faire est tellement symbolique et tellement juste que ça donne des histoires universelles et des histoires auxquelles tout le monde peut s'identifier.
Oui, et qu'on invite bien sûr à revoir, on invite nos auditeurs à revoir Les choses de la vie, César et Rosalie, Max et Ferrier, tous ces merveilleux films qui sont aussi un portrait des années, de ces années 70. Quand même encore une question sur votre maman, après on revient à vous bien sûr. Vous aimez bien le rire, vous aimiez le rire de votre maman et les films et les comédies qu'elle a tournées, notamment cette comédie qui s'appelle What's New Pussycat, que vous citez dans votre récit. Et c'est finalement une Romy Schneider que les gens ont peut-être moins connue ou moins appréciée, bizarrement.
C'est-à-dire, il n'y en a pas eu 36 000 des comédies, je crois.
Non.
Que c'est vraiment quasiment la seule, hein. En tout cas, revendiquée comme telle. Après, il y a il y a toujours un peu de comédie. Je sais pas. Bon, elle, de fait, elle a quand même tourné plus de drames, on va dire.
Ouais.
Films un peu plus, voilà. J'aime son rire parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très franc d'abord, très honnête, et en même temps parfois un peu poussé. Après, vous savez, j'ai entendu aussi, là, j'ai entendu des rires qu'elle a pu avoir en interview. Alors, jusqu'à quel point on est soi-même en interview, ça, c'est la grande question.
Revenons à vous, Sarah Biasini. Il y a une thématique, il y a une question, un questionnement qui traverse tout le texte que vous venez de publier chez Stock. La beauté du ciel, c'est le titre de ce livre. C'est la question de la légitimité. Et j'ai l'impression qu'elle se pose à la fois par rapport à votre maman, mais par rapport aussi à vous en tant que mère. C'est une légitimité que vous questionnez, que l'actrice que vous êtes aussi questionne, et que la maman à venir qui écrit ce texte se pose aussi.
Oui. Oui, parce que ce qui me guidait, je pense, tout au long de l'écriture, c'est quel genre de mère je veux être. C'est la question que je me suis posée, mais je pense inconsciemment déjà, tout de suite. Et donc ça m'a renvoyé tout de suite à une multitude d'autres questions du genre, alors quel genre de mère j'ai eu, quel genre d'enfant j'ai été, quel genre d'enfance j'ai eu. Qu'est-ce qui m'a marqué moi enfant, qu'est-ce qui m'a accompagnée, aidée, qu'est-ce que j'ai aimé faire enfant. Et donc, qu'est-ce que je vais vouloir transmettre, moi, à mon enfant? Comment je vais l'éduquer? Comment je vais lui apprendre certaines choses? Qu'est-ce que j'ai retenu, moi? Et qu'est-ce que je vais vouloir transmettre? Je pense que tous les parents se posent cette question-là.
Ouais. Et évidemment, votre expérience de femme, de mère, est évidemment marquée par l'absence de cette mère. Vous dites que pour votre fille, vous avez un amour craintif, que vous avez peur que ça s'arrête.
Oui, puisque j'ai connu les deux morts très brutales et assez, très tôt, effectivement, là, je voulais parler de ça aussi. Je pense que de cette peur inconsciente que des accidents se reproduisent et on est forcément, on est influencé par ça.
Ouais.
Il faut l'accepter, il faut en avoir conscience, il faut l'accepter, il faut se contrôler un peu. Parce que, comme on dit, je ne sais plus qui a dit ça, mais c'est très vrai, la peur n'évite pas le danger. Et puis on peut pas encombrer ses enfants de on peut pas tout d'un coup leur insuffler la peur de tout, c'est insupportable. Il faut se retenir en tant que parent de donc voilà, peut-être que je voulais exorciser tout ça.
Ouais, par ce texte.
Pour la laisser tranquille.
Ouais, la beauté du ciel. Merci beaucoup, Sarah Biasini, d'avoir été des nôtres ce midi. Je le rappelle, ce texte est publié aux éditions Stock. Je vous recommande chaudement la lecture de ce texte, La beauté du ciel. On va se quitter avec un chanteur que vous aimez et que votre maman aimait aussi. Vous le dites dans ce livre, c'est Frank Sinatra. J'espère que ce choix vous conviendra, Sarah Biasini. Merci d'avoir été des nôtres. Voici.
Merci beaucoup.
It was a very good year. Frank Sinatra, merci à vous.
When I was 17, it was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the lights on the village green. When I was 17, when I was 21, it was a very good year. It was a very good year for city girls who lived up the stair with all that perfumed hair. And it came.
came undone when I was 21. When I was 35, it was a very good year. It was a very good year for blue-blooded girls of independent means. We'd ride in limousines. Their chauffeurs would drive. When I was 35, but now the days are short. I'm in the autumn of the year, and now I think of my life.
Frank Sinatra qui retrace sa vie dans cette merveilleuse chanson It Was a Very Good Year.
Très sans frapper sur la première.
11h30, 13h.
C'est la semaine de carnaval et pourtant nous allons, grâce à Jean-Marc Panis, enlever ce qui nous masque la forêt et découvrir ce qui se cache derrière. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'une jeune femme qui décide de libérer sa vieille grand-mère du home dans lequel elle dépérit, sans vraiment se soucier des règles de l'art ni de la loi tout court. Et comme on sait ce qui se passe avec l'enfer et les bonnes intentions, le chemin de la parenthèse enchantée va vite se transformer en highway to hell, aussi drôle que poignant pour les fuyardes transgénérationnelles. C'est le premier roman graphique d'une très jeune auteure de chez nous qui va faire parler d'elle, c'est sûr. Jean-Marc Panis a rencontré Alix Garin dans une séquence où il va convoquer un autre vieux à cavale, Alan Arkin, le grand-père coquet, foireux et génial de Little Miss Sunshine. Une séquence enregistrée dans un camping-car jaune aux klaxons coincés et musicalement orchestrée par Soufiane Stevens. Bref, que du beau monde.
I paid my money, they took my money, I should be able to do what the fuck I want.
You started snorting heroin.
You started snorting heroin?
I'm old! Well, this stuff will kill you.
What am I, an idiot?
C'est très éprouvant, je trouve, d'écrire un scénario. Parce qu'en fait, on s'immerge complètement dans une histoire qui est à la fois la nôtre, mais en même temps qui ne l'est plus du tout, et qui est dure, et ça demande de nombreux mois. C'est difficile aussi de pouvoir porter un regard critique sur son travail pour justement dégraisser au fur et à mesure des lectures et ne garder que l'essentiel. Et ça demande... Beaucoup de recul et aussi savoir observer les gens, savoir s'observer soi-même, repérer quels sont les schémas de pensée, pourquoi les gens réagissent comme ci, pourquoi ils disent ça. Il faut être, je pense, très très à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. Essayer de mettre le doigt sur des émotions ou des sensations, des sentiments que les gens n'auraient pas forcément verbalisés par eux-mêmes, mais quand ils le lisent, ils se disent « c'est ça ». Et ça, je trouve que c'est la magie de la bande dessinée en particulier, mais aussi de toute la fiction. C'est de pouvoir donner aux gens ce qu'ils ressentent sans qu'eux auraient pu eux-mêmes le trouver. Et quand ils l'ont sous les yeux, ils sont « waouh ».
Beaucoup d'auteurs ou d'autrices, tu cherches des réponses ou tu essaies de dire des choses. Est-ce que c'était aussi la façon à toi de dire peut-être à tes parents ou à tes frères ou à des gens qui tu étais? Est-ce que c'est quelque chose de conscient et comment on équilibre ça?
C'est très délicat comme question, mais très très intéressant. Je pense que oui, j'essaye d'exprimer qui je suis au fond de moi au travers de mon art et parce que c'est parfois délicat de le faire par un autre billet. Mais en même temps,
Ne m'oublie pas est une fiction. Et Clément, c'est plus un alter ego que juste moi, ou qu'une transposition de qui je suis. J'ai envie de dire, je suis Clémence, je suis la grand-mère, je suis la mère, je suis le policier. Ils sont tous un peu une partie de moi. Donc, mais c'est clair que ça en dit long sur qui je suis, parce qu'en fait, on ne peut pas mentir. Et on est toujours qui on raconte.
Il y a le double cheminement, le cheminement de la jeune femme qui finalement, on voit qu'elle a des trucs à régler, qu'elle a des trucs à exprimer, qu'elle a des trucs, elle a besoin de se libérer de quelque chose. Et puis il y a cette dame qui est vraiment en train de nous quitter, au propre mot figuré. Comment ça se passe? Elle savait, la vraie grand-mère d'Anix, que c'était en cours? Elle a vu des choses, ça doit être très fort aussi.
Non, elle savait rien. C'est peut-être à la fois un regret que j'ai qu'elle n'ait rien su, mais en même temps, ça s'est imposé naturellement comme ça. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à l'écrire, elle était déjà un stade relativement avancé de la maladie. Et au moment où je lui aurais dit, elle s'en serait souvenue 5 minutes, après elle aurait oublié. Et de deux, elle était très très humble, très pudique, et elle aurait été gênée en fait, que je lui dise, ouais, je vais faire un album qui parle en partie de toi. Elle n'aurait pas compris, c'était pas dans sa nature, c'était pas dans sa culture, son expérience. Donc, je l'en ai préservé. J'ai gardé ça pour moi, et à tort ou à raison, mais en tout cas, ça s'est passé comme ça. Pour moi, la bande dessinée, c'est mon médium, j'adore ça. J'ai toujours voulu faire de la bande dessinée depuis que j'ai 5 ou 6 ans. C'était ma certitude, quoi.
Avec quoi,
alors, j'étais biberonnée à Spirou. Depuis toujours, je dessinais. Et en fait, une amie de ma mère m'a montré... Elle voyait que je dessinais beaucoup. Elle a dessiné 6 cases en gaufrier, comme ça, sur une feuille. Elle m'a dit, voilà, avec ces 6 cases, tu racontes une histoire. Et ça a été la révélation. Et je ne me suis plus jamais arrêtée. Donc, j'ai été biberonnée à Spirou. Ma mère est une excellente lectrice de bande dessinée. Elle lit pas beaucoup, mais elle a hyper bon goût. Alors qu'elle a aucune culture là-dedans, vraiment, elle a le flair. Et du coup, elle avait une très très belle bibliothèque de sa jeunesse des années 80. Donc ça, je me suis penchée dessus adolescent, donc avec Tout à suivre, les débuts du roman graphique. Donc ça aussi, nouvelle claque. Et puis après, à 18 ans, j'ai commencé Saint-Luc à Liège. Et là, 3 ans extraordinaires, très très éprouvants aussi. Parce que je me suis dit... Il y a déjà tellement de choses extraordinaires qui ont été faites. Qui suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Et ça a été épouvantable. Et je me suis dit, mais comment tu vas faire? C'est un métier tellement dur, c'est un milieu tellement difficile. Et en même temps, je savais que si je faisais pas ça, j'en mourrais, quoi. Vraiment. C'est ma vie, ça, elle sert à ça, ma vie, quoi.
Merci à Jean-Marc Panis, merci à Alix Garin. Et puis je vous rappelle que son roman graphique Ne m'oublie pas est disponible bien sûr dans les bonnes librairies. C'est paru chez Lombard. Dans quelques instants, les informations de 13h avec Olivier Nederland. Demain, dernier épisode de Selectorama. Mais demain aussi, nous avons comme invité Charlène Couture qui nous parlera de ses années new-yorkaises. Nous aurons également la visite du scénariste et dessinateur Christophe Chabouté qui signe un très beau roman graphique intitulé Yellow Cab. Et puis merci bien sûr à Marie-Agnès Baupin, Catherine Robert et Eve Jans. Bon après-midi, à demain.
La première.
L'esprit clair.
Salut!
Mika est un grand mammouth.
Bah oui, et j'ai un petit problème.
Ses meilleurs amis, Charlie le chat et Stormy la souris, ne sont pas d'accord.
Mika est ma meilleure amie.
Non, Mika est ma meilleure amie.
Les amis!
Ah, le voilà le problème.
Bah oui, je veux que Charlie et Stormy arrêtent de se disputer.
Peux-tu aider Mika? Procure-toi vite le jeu de cartes Pas à Pas. Gratuit chez Colruyt, OK, Spar et Dreamland.
Ensemble, Pas à Pas.
Dis, merci.
Enfin, mais pourquoi?
Bah, d'avoir écouté toutes mes histoires.
Et attends d'entendre les miennes, hein.
Se parler, ça change tout. Alors nous avons tout fait pour qu'on puisse facilement parler ensemble. Par exemple, de nos conditions salon prolongées sur toutes les Sport Editions. Découvrez-en plus sur mercedes-benz.be.
Et Mercedes, et si on se parlait?
Moi, souscrire à Dentalia Plus. J'ai une hygiène dentaire parfaite. Je fais super attention à ce que je mange. En 25 ans, jamais eu de caries. Non, je vois vraiment pas pourquoi je prendrais une assurance.
Voilà pourquoi, Tom. Parce que se casser une dent, ça peut arriver à tout le monde. Mais ça ne vous arrivera jamais à vous tout seul. Avec Dentalia Plus, bénéficiez jusqu'à 1 250 € par an de remboursement lié à vos soins dentaires. Offrez à vos dents une couverture maximale avec Dentalia Plus. Partenamut, on vous simplifie la santé. Plus d'infos sur partenamut.be.
La première et la 3 présentent...
Lapin, bloque les dates. On part 10 jours en voyage. Tu vas adorer.
Mais où ça?
Bah à Anima.
Le festival Anima, du 12 au 21 février. Plein de dessins animés et de films d'animation sur la plateforme Anima Online. Rendez-vous sur animafestival.be.
Et c'est pas en zone rouge.
Avec la région de Bruxelles-Capitale.